Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Baba Batra, page 19, Daf Yud Tet. Bonne écoute et bon limoud.
Lo Mashkechale, les abeilles ne peuvent pas atteindre ces graines parce qu'elles sont dans une enveloppe qui empêche les abeilles de les atteindre. Ibetarfa, si nous parlons des feuilles que les abeilles mangent, Hadar Pare, elles poussent à nouveau. Nous ne pourrons pas considérer cela comme un dégât. Finalement, puisque nous considérons que les abeilles ne causent pas des dégâts à la moutarde, ce sera au propriétaire de la moutarde de s'éloigner pour ne pas gêner les abeilles, même si lorsqu'il avait planté la moutarde, il avait tout à fait le droit de le faire parce que c'était dans son domaine. Nous avons fini ici le shiur de Baba Batra Daf Yutret. Nous commençons le shiur de Baba Batra Daf Yutret à la deuxième ligne du haut de la page. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit « Velo nivrechet hakovsim » et il est interdit de creuser un bassin à lessive à moins de s'éloigner du puits de son voisin d'une distance de 3 tfachim. Et cela, comme nous l'avons expliqué dans la Mishnah, parce que le fait de creuser à proximité du puits de son voisin va fragiliser les parois de son puits, ce qui va causer des infiltrations d'eau d'un puits à l'autre et ils vont s'effondrer. Alors la Gemara dit là-dessus « Amar Rav Nachman, Amar Rabba Baravua, lo shanu el amina mechamtsan » Nous ne disons cela qu'on peut suffire de s'éloigner d'une distance de 3 tfachim du puits de son voisin. Uniquement lorsqu'il s'agit d'un bassin à lessive, on le laisse tremper avec des détergents, comme il le faisait à l'époque avec des excréments de chien. Aval min hanadyan. Mais lorsqu'il s'agit d'un bassin à lessive où on lave le linge, arba amot, il faudra l'éloigner d'une distance de 4 coudées. Et cela parce que lorsqu'on lave et on frotte le linge dans ce bassin, il y a de l'eau qui gicle partout et qui risque d'abîmer, entre autres, le puits du voisin. C'est pour cela, donc, qu'il faudra s'éloigner d'une distance de 4 coudées. L'Agma a dit là-dessus, « Tanya Lamiachi, il a été enseigné ainsi aussi dans une braïta, « Nivrechet Hakovsin, le bassin à lessive, il faudra l'éloigner, arba amot, d'une distance de 4 coudées. » L'Agma demande, « Ve'anantnan, shloshat fachim, pourtant nous avons enseigné dans la Mishnah qu'on peut suffire d'éloigner le bassin à lessive d'une distance de 3 fachim. » du puits du voisin. Et la Nafsh Mamina, n'est-ce pas donc que nous pouvons déduire de là, que de Rav Nachman, que cette différence que Rav Nachman a fait est juste. Donc, le bassin où on laisse tremper le linge devra être éloigné uniquement d'une distance de 3 tfachim, alors que le bassin où le linge est frotté devra être éloigné d'une distance de 4 coudées. Ve'ika de ramé lehu mirme. Il y en a qui ramènent cet enseignement d'une manière différente en tant que contradiction entre la Mishnah et la Braïta. En effet, Tnan, nous avons enseigné dans notre Mishnah, Nivrechet Hakovsin, Shloshat Tfachim. Il faut éloigner le bassin à lessive du puits de son voisin d'une distance de 3 Tfachim. Vatania, pourtant, nous avons enseigné dans une Braïta, Arba Amot, qu'il faut éloigner le bassin à lessive du puits de son voisin d'une distance de 4 coudées. Alors là-dessus, Amar Rav Nachman, Amar Rabba Baravua, pour répondre à cette question, Lakashia, il n'y a pas de contradiction. Kal Mina Mechamtsan, dans notre Mishnah, il s'agit d'un bassin où on laisse tremper la lessive avec des détergents, kan min hanadyan, alors que dans la braïta, il s'agit d'un bassin où on frotte le linge, celui-ci devra être éloigné donc d'une distance de 4 coudées. Rav Chia Bere de Rav Avia Matnela Behadia a enseigné clairement une braïta qui rejoint l'opinion de Rav Nachman. En effet, cette braïta dit, Elaim ken irhik misfat mechamtsan velakotel, il est interdit de creuser un bassin à lessive à proximité du puits de son voisin, à moins de l'éloigner de manière à laisser une distance entre le bord du bassin où on laisse tremper le linge vers la côtelle et la paroi du puits de son voisin, Gimel Tfachim, une distance de 3 Tfachim. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit Vesad Besid. En plus du fait qu'il faut éloigner les deux puits en laissant une distance de 3 Tfachim entre les deux puits, il faut aussi enduire les parois de ce puits avec de la chaux. En fait, le terme de Vesad peut être traduit de deux manières. Ou bien, et il faudra enduire les parois donc avec de la chaux, ou bien il peut être traduit, ou on pourra se suffire d'enduire les parois de ce puits avec de la chaux. C'est pour cela que, Ibaya Lehu, les Chachamim se sont posé la question suivante. Est-ce que Vesad Besitnan, est-ce que la Mishnah nous enseigne qu'il faut en plus de l'écart qu'il faut laisser entre les deux puits, Il faut aussi enduire les parois avec de la chaux. Odilma, ou bien, c'est cela que la Mishnah veut nous enseigner. Soit il devra laisser un écart de 3 tfachim entre son puits et la paroi du puits de son voisin. Ou bien, il pourra se suffire d'enduire les parois de son puits avec de la chaux. Dans ce cas donc, l'écart de 3 tfachim ne sera pas nécessaire. Alors la Gemara demande, Pshita, il est évident que Devesad Besitnan, que la Mishnah voulait nous enseigner, qu'il faut aussi enduire les parois du puits avec de la chaux. Des Isal Kadatar de Osad Besitnan, parce que si tu penses que la Mishnah voulait nous enseigner qu'il peut soit laisser un écart de 3 tfachim, soit enduire les parois de son puits avec de la chaux, Imken, si c'est ainsi, Liarvinu Velitninu, la Mishnah aurait dû mélanger les deux premiers cas, et de dire donc qu'il faut éloigner son puits de parois du puits de son voisin, d'une distance. Et aussi, il faut éloigner les produits toxiques, comme les déchets provenant de la pression des olives, etc., d'une distance de 3 tfachim, ou bien il faut enduire les murs avec de la chaux. Puisqu'il est évident que dans le deuxième cas de la Mishnah, une seule des deux solutions suffit. Donc soit laisser un écart de 3 tfachim, soit enduire les murs avec de la chaux. Donc pourquoi est-ce que la Mishnah a séparé les deux enseignements en deux cas? Forcément, c'est pour nous enseigner que dans le premier cas, il faudra appliquer les deux solutions, c'est-à-dire laisser un écart de 3 tfachim et en plus enduire les parois du puits avec de la chaux. L'Agma répond, toujours pourrais-je te dire que même dans le premier cas donc des puits, on pourra se suffire de l'une seule des deux solutions. Donc ce sera soit laisser un écart, soit enduire les parois du puits avec de la chaux. Cependant, la raison pour laquelle la Mishnah n'a pas mélangé les cas, Dilma Mishum Delodame Hai Hezeka Le Hai Hezeka, parce que les deux dégâts ne se ressemblent pas. C'est-à-dire, Recha Hezeka de Metuna, dans le premier cas de la Mishnah, nous parlons de précautions à prendre pour éviter des dégâts causés par l'humidité. Sefa Hezeka de Havla, dans le deuxième cas de la Mishnah, il s'agit de précautions à prendre pour éviter les dégâts causés par la chaleur. C'est pour cela donc que la Mishnah a séparé ses enseignements en deux cas, sans pour autant qu'il y ait une différence entre les deux. Alors Gemara dit, Tashma, viens écoute une preuve d'une braïta qui dit, Rabbi Yehuda Omer, c'est là Haba Biadaim, lorsqu'il s'agit d'une roche friable, Zechofer Boromikan, celui-ci creusera son puits d'un côté, donc dans son terrain, Zechofer Boromikan, et son voisin pourra creuser son puits de l'autre côté, dans son terrain. Cependant, Zemarchik Shloshat Fachim Besad Besid, celui-ci devra s'écarter de la bordure de son terrain d'une distance de 3 tfachim, et en plus il devra enduire les parois de son puits avec de la chaux, Vezemarchik Shloshat Fachim Besad Besid, et celui-ci, donc le deux second, devra aussi laisser un écart de 3 tfachim et enduire les parois de son puits avec de la chaux. Alors nous pouvons déduire que Tama de Babéadaim, c'est seulement parce qu'il s'agit d'une roche friable qu'il faut appliquer les deux solutions, donc laisser un écart et endurer les parois du puits avec de la chaux. Halo Babéadaim, mais s'il ne s'agissait pas d'une roche friable, l'eau, on n'aurait pas eu besoin d'appliquer les deux solutions. L'Agma répond, Huadin de Afalgav de Lo Babéadaim, Nami Sad Besid. Toujours pourrais-je te dire que même dans le cas où il ne s'agit pas d'une roche friable, quand même, il faudra appliquer les deux solutions, donc laisser un écart et aussi endurer les parois du puits avec de la chaux. Ou Babéadaim Itztarichale, cependant, la Braïta voulait nous enseigner un chidouche concernant le cas d'une roche friable, parce que Salkadata Hamina, on aurait pu penser qu'il va de Babéadaim, puisqu'il s'agit d'une roche friable, Libaé Ravchadfe, on aurait pu croire qu'il faut laisser un écart plus grand. Kamash Malan, c'est pour cela que la Braïta nous enseigne qu'un écart de 3 tfachim laissé par chacun des deux voisins, c'est-à-dire en tout 6 tfachim, est suffisant pour éviter des dégâts. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit « Marchikin et hagefet ve'et hazevel » Il faut éloigner les déchets provenant de la pression d'olive et le fumier, « ve'et hamelach » et le sel. Nous ajoutons ici selon le bar « ve'et acide » et les pierres à chaud, « ve'et haslaim » et la pierre de silex du mur de son voisin d'une distance donc de 3 tfachim. Ou bien il faudra enduire le mur de son voisin avec de la chaux. Alors la Gemara dit là-dessus, « Tnanatam » Il a été enseigné là-bas dans Masechet Shabbat, Daf Memzayin Amud Bet. Dans cette Mishnah, il s'agit d'un décret des Chachamim qui interdit d'enfouir le vendredi après-midi une casserole de nourriture dans quelque chose qui génère de la chaleur pour avoir de la nourriture chaude le Shabbat, de peur qu'on enfouisse cette casserole de nourriture dans des braises chaudes et au risque de remuer les braises pour augmenter la chaleur de cette nourriture. Il sera toutefois permis d'enfouir de la nourriture dans quelque chose dont l'action sera uniquement de préserver la chaleur. C'est pour ça que la Mishnah demande Bame Tomnin ou Bame En Tomnin. Dans quoi a-t-on le droit d'enfouir une casserole de nourriture et dans quoi n'a-t-on pas le droit d'enfouir une casserole de nourriture? Alors la Mishnah répond En Tomnin, il est interdit d'enfouir une casserole de nourriture l'aube gefet, ni dans des déchets provenant de la pression d'olive, velobe zevel, et ni dans du fumier, velobe melach, et ni dans du sel, velobe sid, et ni dans des pierres de chaux, velobe chol, et ni dans du sable, ben lachin, ben yeveshim, qu'il soit sec ou humide, parce qu'il génère de la chaleur, et c'est pour cela que les chachamim l'ont interdit, comme nous l'avons expliqué. Alors la Gemara demande, maishna hacha de katanes laim, velo katanechol, pourquoi ici dans notre Mishnah, parle-t-on des pierres de silex qui génèrent de la chaleur et on ne parle pas du sable qui a été mentionné dans Maseret Shabbat ou Maishana Atam, et pourquoi là-bas dans Maseret Shabbat, des katanechol, velo katanechlaim, nous parlons du sable qui génère de la chaleur et non pas des pierres de silex qui génèrent aussi de la chaleur. L'Agma répond à Amar Rav Yosef, les fi shen darkan shel bnei adam leatmin bislaim. La Mishnah dans Shabbat n'a pas parlé de pierres de silex parce que les gens n'ont pas l'habitude d'enfouir leurs casseroles dans des pierres de silex. Amar le Abaye, Abaye lui a posé la question suivante, Vechi darkan shel bnei adam leatmin begizet semer ulshonot shel argaman. Est-ce que les gens ont l'habitude d'enfouir leurs casseroles de nourriture dans de la laine brute ou bien dans de la laine peignée teinte en pourpre? De Tanya, voici, il a été enseigné dans une braïta, Tomnin begizet semer, il est permis d'enfouir une casserole de nourriture dans de la laine brute, ou betzipetzemer, ou bien dans de la laine peignée, ou belechonot shel argaman, ou bien dans de la laine peignée teinte en pourpre, ou bemouchim, ou bien dans des fibres provenant de l'usure des habits. V'el metal telimotam, cependant, il sera interdit de les transporter, parce qu'ils sont mouktsés. En effet, cette laine brute ou peignée, ou celle qui est teinte, est destinée à la confection d'habits. En tout cas, cette braïta parle donc d'enfouir une casserole de nourriture dans des choses que les gens n'ont pas l'habitude d'utiliser pour enfouir de la nourriture. Si c'est ainsi, pourquoi est-ce que la Mishnah dans Maseret Shabbat n'a pas parlé aussi d'interdire d'enfouir une casserole de nourriture dans des pierres de silex? Et là, Amar Abaye, c'est pour cela qu'Abaye dit pour répondre à cette question. Nous appliquons ici le pasouk dans Iyov Lamedvav, Yagid Alav Reo, qui sera traduit dans ce contexte. Son ami racontera sur lui. En d'autres termes, les deux Mishnayot se complètent. Tana hachas laim. Dans notre Mishnah, nous parlons de pierres de silex qui génèrent de la chaleur, vuadin lechol, et aussi la halacha sera la même concernant le sable, qui donc génère aussi de la chaleur, comme la Mishnah l'a enseigné dans Maseret Shabbat. Tana hatam chol, dans Maseret Shabbat, il a été enseigné le sable qui génère de la chaleur, vuadin le slaim. La halacha sera la même concernant les pierres de silex qui génère aussi de la chaleur, comme nous le voyons dans notre Mishnah. Amar le Rava, Rava a posé à Baye la question suivante, I yagid alav reo, si nous appliquons ici ce pasouk dans Iyov Lamedvav, c'est-à-dire si les deux Mishnayot se complètent, litninhu lekulhu bechada, l'auteur de la Mishnah aurait dû énumérer tous les produits générant de la chaleur dans une seule Mishnah, et on aurait dû donc enseigner dans une seule Mishnah à la fois les pierres de silex et le sable. Velitne chada minahi ou beidar. Et puis l'auteur de la Mishnah n'avait qu'à mentionner un seul des produits qui génèrent de la chaleur dans l'autre Mishnah, soit dans Shabbat, soit dans l'autre Mishnah, dans Bava Batra, Vuadin Leidach. Et on aurait déduit que l'alakha sera la même concernant les autres produits qui génèrent de la chaleur, comme nous l'avons vu dans l'autre Mishnah. En d'autres termes, si nous disons que les deux Mishnayot se complètent, il aurait fallu que toute la liste soit énumérée dans l'une des deux Mishnayot, et l'autre Mishnah, même s'il était incomplète, aurait été complétée par l'autre Mishnah. Et là, Amar Rava, c'est pour cela que Rava dit, Hatam haynu tama de lo katanes laim, la raison pour laquelle dans Maseret Shabbat, les pierres de silex n'ont pas été enseignées, Mishum de Mishtachela l'Ekdera, parce qu'il n'y a pas à craindre qu'on enfouisse une casserole en argile de nourriture dans des pierres de silex, parce que ces pierres casseront la casserole. Haha, dans notre Mishnah, haynu tama de lo katanechol, la raison pour laquelle le sable n'a pas été enseigné comme produit générant de la chaleur, Mishum de Michamime Chaim, parce que le sable a cette propriété de générer de la chaleur lorsqu'il est chauffé, donc quand on enfouit une casserole chaude dans ce sable, ou Mikrire Karir, et il a la propriété de se refroidir lorsqu'il est mis à proximité de quelque chose de froid. Par conséquent, il sera interdit d'enfouir une casserole de nourriture chaude dans du sable avant Shabbat, parce que ce sable générera de la chaleur, alors qu'il sera permis de mettre du sable à proximité d'un mur froid, parce qu'au contraire, le sable préservera cette fraîcheur. La Gemara demande, Vehatane Rabbi Hoshaya Chol. Pourtant, Rabbi Hoshaya a cité dans son recueil de Braïtot concernant les produits à éloigner du mur de son voisin. Il a cité donc aussi le sable. La Gemara répond, Hatam Bemetuna. Rabbi Hoshaya parlait de sable humide, et c'est à cause de l'humidité provenant de ce sable qu'il faut l'éloigner du mur, et non pas à cause de la chaleur générée par ce sable. La Gemara demande si c'est ainsi, Tana Didan Nami Litne. L'auteur de notre Mishnah aurait dû aussi citer le sable parmi les produits à éloigner du mur de son voisin Velukme Bemetuna, et qu'il le mette parmi les produits à éloigner du mur de son voisin à cause de l'humidité, donc dans le premier cas de la Mishnah. L'Agma répond, Hatanele Amatamaim. La Mishnah a déjà enseigné qu'il faut éloigner le cours d'eau du mur de son voisin, donc du puits de son voisin, à cause de l'humidité. Nous pouvons donc déduire que toute humidité est nocive pour les murs. On comprendra donc tout seul qu'il faudra aussi éloigner le sable mouillé du mur de son voisin. La Gemara demande à tout Milo Katane Amatamaim. La Mishnah n'a-t-elle pas enseigné qu'il faut éloigner le cours d'eau des Katane Nivrechet Akopsim? Et quand même la Mishnah enseigne aussi qu'il faut éloigner le bassin à lessive. Il faut les éloigner tous les deux du puits de son voisin à cause de l'humidité. Et quand même la Mishnah a enseigné ces deux cas. La Mishnah aurait pu donc ajouter aussi à cette liste le sable mouillé. La Gemara répond, Hanhu Tzriche. La Mishnah avait besoin de nous enseigner ces deux cas, celui du cours d'eau et celui du bassin à lessive. De Itana Matamaim, parce que si la Mishnah avait simplement enseigné le cas du cours d'eau qu'il faut éloigner donc du puits de son voisin, on aurait dit que la raison pour laquelle il faut l'éloigner, Mishum de Kvia, parce qu'il s'agit de quelque chose de fixe, qui restera toujours sur place. Il faut donc l'éloigner parce qu'à la longue, les infiltrations d'eau vont abîmer le puits du voisin. Aval Nivrecheta Kovsin. Mais le bassin à lessive de l'Okvia, qui n'est pas fixe, parce que la personne qui le possède peut changer de métier et ne l'utilisera plus. Et malo, on aurait pu croire qu'il n'est pas nécessaire de prendre des précautions et de l'éloigner du puits de son voisin. C'est pour cela que la Mishnah a eu besoin de l'enseigner. Et si la Mishnah avait simplement enseigné le cas du bassin à lessive, on aurait dit que la raison pour laquelle il faut l'éloigner, Mishum Dekavu Bekaime, parce qu'il s'agit d'eau stagnante. C'est pour cela qu'il faut donc l'éloigner du puits de son voisin, parce que les infiltrations provenant de ce bassin risquent de faire écrouler le puits du voisin. Avala Matamaim, mais le cours d'eau, où il s'agit donc d'eau courante, l'eau, on aurait pu croire qu'il n'est pas nécessaire de l'éloigner, parce que l'eau courante ne s'infiltre pas tellement. Tzricha, c'est pour cela que la Mishnah a eu besoin d'enseigner qu'il faut aussi éloigner le cours d'eau. Mais une fois que nous savons qu'il faut éloigner à la fois le cours d'eau et le bassin à lessive du puits du voisin, nous pouvons comprendre que toute chose humide est nocive pour le mur du voisin. Nous pouvons comprendre donc qu'il faudra éloigner aussi le sable mouillé du mur du voisin. Il n'est donc pas nécessaire de l'enseigner. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit « Marchikin et hazraim ve'et amachresha bechule ». Il faut éloigner les semences et la charrue du mur du voisin. Parce que le fait de semer ou de labourer à proximité de son mur va ameublir la terre et fragiliser les fondations. Celui-ci donc risque de s'écrouler. Alors la Gemara demande, Zraim, pourquoi est-ce que la Mishnah mentionne qu'il est interdit de semer à proximité du mur du voisin? Tipukle Mishumach Recha. On aurait pu déjà déduire que de toute façon il est interdit de le faire parce qu'il est interdit de labourer à proximité du mur du voisin. S'il sème là-bas, forcément c'est qu'il a labouré avant. C'était déjà interdit. L'Agma répond, Bemapoletiad, la Mishnah nous enseigne qu'il est interdit de semer à proximité du mur du voisin, même s'il se contente de retourner la terre avec une bêche. C'est-à-dire, le fait de bêcher à proximité du mur de son voisin est permis, parce que cela ne fragilisera pas les fondations de ce mur, parce qu'on ne bêche pas profondément. Cependant, le fait de semer est interdit, parce que les céréales vont ameublir la terre et fragiliser les fondations de ce mur, celui-ci risque de s'écrouler. La Gemara demande, Machresha, pourquoi est-ce que la Mishnah a besoin de citer qu'il est interdit de labourer à proximité du mur de son voisin, Vetipukle Mishum Zraim? Tu n'as qu'à le déduire que de toute façon il est interdit de le faire, parce qu'en général, on laboure pour semer, et nous avons vu qu'il est interdit de semer à proximité du mur du voisin. La Gemara répond, Bechoresh Leilanot. La Mishnah vient nous enseigner qu'il est interdit de labourer à proximité du mur du voisin, même s'il ne veut pas semer. Par exemple, s'il veut labourer autour d'arbres qu'il possède à proximité du mur du voisin. La Gemara demande, pourquoi a-t-on besoin de nous enseigner qu'il est interdit de semer ou de labourer à proximité du mur du voisin? Vetipukle, Mishum Maya. On aurait pu le déduire que c'est de toute façon interdit, parce que toute plante a besoin d'être arrosée, et nous savons qu'il faut éloigner toute humidité du mur du voisin, comme nous l'avons vu précédemment. Donc finalement, il est évident qu'il faudra éloigner la charrue et les semences du mur du voisin. La Gemara répond, Tana Beret Israël Kai. L'auteur de notre Mishnah parle en Eret Israël, dirtiv, à propos duquel le Passouk dit dans Dvarim Yudalef, Limtar Hashamaim Tishtemaim. Ce pays d'Eret Israël où les Bnei Israël vont rentrer, boit l'eau de pluie. En d'autres termes, en Eret Israël, il n'est pas besoin d'arroser la terre, elle se suffit d'eau de pluie. C'est pour cela que la Mishnah a eu besoin de nous enseigner qu'il est interdit de semer ou de labourer à proximité du mur du voisin, même si celles-ci ne vont pas causer particulièrement de l'humidité. Alors la Gemara demande, les Memra d'Ezraïm, nous pouvons donc déduire de la Mishnah, puisqu'il faut éloigner les semences de trois tfachim du mur du voisin. Nous pouvons donc déduire que les racines des semences...
Vous êtes en plein cours de Gemara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Nous tournons la page à Daf Yutet Amud Bet. L'etzdadim kamishtarje, étendre leurs racines vers le côté, et c'est pour cela qu'il faut les éloigner d'une distance de 3 tfachim, ve'atnan. Pourtant, il a été enseigné dans une Mishnah dans Kilaim Perek Zayin, qui concerne l'interdiction de croiser les plantes. En l'alakha est qu'il est interdit de semer des céréales, même à proximité d'une vigne, dans un périmètre de 4 coudées autour de cette vigne. Mais cela seulement s'il s'agit d'une véritable vigne, composée par deux rangées de pieds de vigne, dont une contient 3 pieds et l'autre contient 2 pieds de vigne. Mais lorsqu'il s'agit d'un pied de vigne solitaire, il est suffisant de s'éloigner d'une distance de 6 tfachim pour planter des céréales. Si l'espace entre la vigne et les céréales est moins que la distance réglementaire, nous considérons qu'il y a eu ici un croisement et soit les céréales, soit les produits de la vigne seront interdits. Alors maintenant la Mishnah dit « Hamavrich et hagefen ba'aretz » celui qui repique un sarment de vigne dans la terre, c'est-à-dire sans le couper du pied de vigne, il enfouit un sarment de vigne pour le faire ressortir beaucoup plus loin, celui-ci prendra racine par la suite et deviendra un nouveau pied de vigne. Im en al-gaba afar shloshat fachim, si ce sarment a été enfoui de manière à ce qu'il n'y ait pas une hauteur de 3 tfachim de terre sur celle-ci, lo yavi zera aleha, il n'aura pas le droit de planter de graines au-dessus de ce sarment, même en respectant les distances réglementaires. Parce que les racines des céréales atteignent une profondeur de 3 tfachim et elles se mêleront à ce sarment de vigne. Vetaneala, il a été enseigné une braïta pour expliquer cette Mishnah, aval zorea et atzdadim elach veelach, mais il est permis de planter des graines à droite et à gauche de ce sarment. Apparemment donc, nous voyons dans cette Mishnah que les racines des céréales vont en profondeur et non pas sur les côtés. Si c'est ainsi, pourquoi a-t-on l'obligation d'éloigner des semences du mur du voisin d'une distance de 3 tfachim, puisqu'elles ne s'étendent pas sur le côté? L'agma répond, Amar Rabbi Chaga b'shem Rabbi Yossi, mipnei shemachlidin et hakarka. La raison pour laquelle il faut éloigner les semences du mur du voisin, ce n'est pas parce que les racines s'étendent sur le côté, donc sur une distance de 3 tfachim, mais plutôt parce que la présence des graines fait ameublir la terre autour d'elle dans un périmètre de 3 tfachim ou ma'alin afar tichouach et faut remonter de la terre meuble. Ce qui fait que les fondations seront fragilisées et le mur risque de s'écrouler. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit « Ve'et meraglaim minakotel shlosha tfachim » Il faut aussi éloigner l'urine du mur de son voisin d'une distance de 3 tfachim. Alors la Gemara dit là-dessus « Amar Rabba Barbar Hana mutar le'adam l'ashtin ma'im betzad kotlo shel chavero » Il est permis à un homme d'uriner à proximité du mur de son voisin. Dirtiv, parce que nous voyons dans le pasouk dans Mlachim Aleph, Kaf Aleph, c'est à Kadosh Baruch Hu qui s'adresse à Eliyahu Hanavi pour lui dire d'aller annoncer au roi Achav qu'il allait détruire toute sa descendance. Et cela parce qu'il avait fait tuer un nommé Navot pour pouvoir s'emparer de son vignoble qu'il convoitait. Alors le pasouk dit « Vichrati le'achav mashtin bekir ve'atsur ve'azuv be'israël » et j'éliminerai de la descendance d'Achav toute personne susceptible d'uriner devant un mur, donc tout mâle, et j'éliminerai du clan Israël tout échappé et tout rescapé de la descendance d'Achav. En tout cas, nous voyons qu'il est d'usage d'uriner devant un mur. Forcément, donc, nous voyons de là qu'il est permis d'uriner devant le mur de son voisin. Alors, la Gemara demande, Veha Anantnan, pourtant nous avons enseigné dans notre Mishnah, Veet Meraglaï Minakotel Shlosha Tfachim, il faut éloigner l'urine du mur de son voisin d'une distance de 3 Tfachim. La Gemara répond, Hatam Beshofrim, dans la Mishnah, il s'agit d'un pot de chambre. C'est-à-dire, il est interdit de vider un pot de chambre contenant de l'urine à proximité du mur de son voisin. Il faudra donc s'éloigner d'une distance de 3 tfachim. Nous sautons la parenthèse. Tashma, viens écoute une preuve d'une braïta. La braïta dit, Lo yashtin adam maim betzad kotlo shel chavero. Il est interdit d'uriner à proximité du mur de son voisin. Et laim ken ilchik memenu shlosha tfachim, à moins de s'éloigner de celui-ci d'une distance de 3 tfachim. Bam et dvarim amurim, quand ces choses sont dites, bekotel levenim, lorsqu'il s'agit d'un mur de briques. Parce que ces briques en terre séchée se désintégreront sous l'action de l'urine. Aval bekotel avanim, mais lorsqu'il s'agit d'un mur de pierre, birde shelo yazik, il devra s'éloigner uniquement d'une distance suffisante pour ne pas endommager le mur. Vekama, et quelle est cette distance? Tefach, c'est la distance d'un tefach, soit 10 cm. Parce que l'urine sera absorbée par la terre, et ce qui fragilisera les fondations de ce mur, et il risque de s'écrouler. C'est pour cela donc qu'il faut s'éloigner d'une distance d'un tefach. Veshel Tsunma, et si ce mur était construit sur des rochers qui étaient enfouis dans la terre, Moutar, il est permis d'uriner même à proximité de ce mur sans s'éloigner. En tout cas, nous voyons dans cette braïta clairement qu'il est interdit même d'uriner à proximité du mur de son voisin. Tchoubta de Rabba Barbarhana, nous avons donc d'ici une réfutation sur l'opinion de Rabba Barbarhana. La Gemara conclut, Tchoubta, effectivement, c'est une réfutation de l'opinion de Rabba Barbarhana. Finalement donc, il est interdit d'uriner à proximité du mur de son voisin s'il s'agit d'un mur de briques. La Gemara demande, Veha Rabba Barbarhana Krakamar, pourtant, Rabba Barbarhana a apporté un pasouk à l'appui, duquel nous avons vu qu'il était permis d'uriner à proximité du mur de son voisin. La Gemara répond, Hatam Achikamar, dans ce pasouk, c'est cela qu'il a voulu dire. Afilu Mide de Darke Leashtune Bekir, même un être qui a l'habitude d'uriner sur les murs, et qui appartenait à Achav, l'Oshavik Nale, je ne lui laisserai pas, ou Mainihu, et quel est cet être? La Gemara répond, Kalba, c'est le chien. C'est-à-dire, Akash Baruchou annonce à Eliyahu Hanavi qu'il détruira non seulement la descendance d'Achav, mais même les animaux lui appartenant, comme les chiens. La Gemara va maintenant entamer un sujet dont le rapport avec le sujet que nous traitons est indirect. Il s'agit de l'impureté transmise par le cadavre humain. Ce sujet est traité longuement dans Seder Taharot, Masechet Ohalot. Alors pour comprendre ce qui va être enseigné dans la Gemara, nous allons faire une petite introduction. La présence d'un mort dans une pièce, ou même d'un morceau d'une taille d'une olive de chair provenant d'un mort, rend impur tout ce qui se trouve dans cette pièce. Cette impureté se propage dans les pièces avoisinantes. S'il existe une ouverture de la taille d'un tefar sur un tefar, c'est-à-dire 10 cm sur 10 cm. Dans ce cas donc, tout ce qui se trouve dans les pièces avoisinantes deviendra aussi impur. Alors pour éviter que l'impureté se propage, il faut donc boucher les trous qui se trouvent dans la pièce où se trouve le cadavre. Cependant, pour boucher tous les orifices, on ne pourra utiliser uniquement des objets qui ne sont pas susceptibles de devenir impurs. Par conséquent, il sera impossible d'utiliser un ustensile en métal. Il sera cependant possible d'utiliser un ustensile de bois s'il est plat. Ou bien, on pourra utiliser un ustensile en argile qui ne peut devenir impur que lorsque l'impureté atteint l'intérieur de celui-ci. On pourra donc le mettre à l'envers, c'est-à-dire avec l'envers de l'ustensile en direction de la pièce où se trouve le cadavre. Ainsi, l'impureté ne passera pas. Mais si on utilise un ustensile susceptible de devenir impur, celui-ci deviendra impur et l'impureté se propagera dans l'autre pièce. Il sera possible aussi d'utiliser de la nourriture qui n'est pas encore susceptible de devenir impure parce qu'elle n'a pas eu de contact avec l'un des sept liquides énumérés dans Masechet Marchirim qui sont l'eau, la rosée, le vin, le lait, l'huile d'olive, le sang et le miel de date. Maintenant, comme le précise le Tosfot, si l'on bouche cet orifice entièrement, il est possible de le boucher même d'une manière provisoire. Et la question se posera ici dans la Gemara, c'est lorsqu'il s'agit d'une fermeture partielle de ce trou. La question se pose, est-ce que l'on pourra se suffire d'une fermeture provisoire, ou bien l'on dira que seule une fermeture définitive, donc partielle de ce trou, pour que nous puissions considérer cet orifice comme n'ayant pas les dimensions réglementaires pour transmettre l'impureté. Alors la Gemara dit, Amar Rav Tuvi Bar Kisna Amar Shmuel, Rakik, la présence d'une crêpe qui a été faite avec de la pâte liquide, et non Memaet Bechalon, n'est pas suffisante pour diminuer les mesures d'une fenêtre pour empêcher le passage de l'impureté. Et cela parce que cette crêpe est mangeable, il s'agit donc d'une fermeture provisoire et non pas définitive. Parce que selon Rav Tuvi Bar Kisna, pour diminuer les mesures d'une fenêtre, il faudra qu'il s'agisse d'une diminution définitive. Alors la Gemara demande, Maïri Arakik, pourquoi est-ce que Rav Tuvi Bar Kisna parle uniquement d'une crêpe à Filo Avanami, même s'il s'agissait d'un gâteau ou du pain fabriqué avec de la pâte épaisse, Nami, il en sera de même, sa présence ne sera pas suffisante pour diminuer les mesures de la fenêtre, pour empêcher le passage de l'impureté, et cela pour les mêmes raisons. L'Agma répond, Lomi Baya Kama. Rav Tuvi Bar Kisna a voulu nous enseigner un chidouche. Lomi Baya Ava, non seulement dans le cas de pain fabriqué avec de la pâte épaisse, qui va dire Zélé, puisque ce morceau de pain reste mangeable, même après être resté dans cette fenêtre. Par conséquent, l'homme avtillé, il est évident qu'il ne l'annulera pas là-bas, c'est-à-dire, il est évident qu'il ne s'agit pas d'une fermeture définitive. Aval rakik, mais lorsqu'il s'agit d'une crêpe d'Emamis qui devient dégoûtante après être restée dans cette fenêtre, parce que l'humidité qui règne dans cette fenêtre va rendre cette crêpe dégoûtante, Emma bitul emavtillé, on aurait pu croire qu'il l'annule là-bas. Il s'agira donc d'une fermeture définitive qui sera suffisante donc pour diminuer les mesures de la fenêtre pour empêcher le passage de l'impureté. Kamash Malan, c'est pour cela que Rav Tuvi Bar Kisna nous enseigne que même en déposant une crêpe dans une fenêtre, nous ne considérerons pas que les mesures de cette fenêtre ont diminué. Parce que même si elle devient dégoûtante, elle reste quand même mangeable. Il s'agit donc d'une fermeture provisoire qui n'est pas suffisante pour diminuer les mesures de cette fenêtre pour empêcher le passage de l'impureté. Alors la Gemara demande, pourquoi doit-on donner cette raison qu'il ne s'agit pas d'une fermeture définitive? Vetipukle d'ave d'avar sheoum kabel touma. On aurait dû dire que cette crêpe n'empêche pas l'impureté de passer parce qu'il s'agit d'un objet qui est susceptible de devenir impur. Puisque forcément cette crêpe a eu contact avec un liquide pour la fabriquer, même si auparavant elle n'a pas eu d'autre contact avec un liquide, dès maintenant elle est devenue susceptible de devenir impur. Vechol d'avar shum kabel touma est tout objet susceptible de devenir impur et no choset bifnei touma n'empêche pas l'impureté de passer. L'agma répond, chenilash bemeperot. Il s'agit ici d'un cas d'une crêpe qui a été fabriquée avec de la farine et un jus de fruits comme un jus d'orange qui ne fait pas partie de cette liquide énumérée plus haut. Nous commençons le shiur de Bava Batra Daf Kaf. Nous commençons Daf Yutet Amud Bet à la 10e ligne du bas de la page. Nous avons entamé précédemment, donc à la fin du shiur précédent, le sujet expliqué par la Gemara concernant l'impureté propagée par la présence d'un cadavre humain dans une pièce. En effet, nous avons dit que cette impureté se propage d'une pièce à l'autre par le moyen d'ouverture ou de fenêtre d'une taille minimale d'un tefar sur un tefar, c'est-à-dire 10 cm sur 10 cm. Il est possible cependant de fermer cette fenêtre pour éviter la propagation de cette impureté avec un objet quelconque, même s'il s'agit d'une fermeture provisoire. Mais cela avec deux conditions. Premièrement, il faudra que cet objet ferme entièrement cette ouverture. Deuxièmement, il faudra que cet objet ne soit pas susceptible de devenir impur. C'est-à-dire, il pourra soit s'agir d'un ustensile en bois plat, c'est-à-dire qui n'est pas récipient, ou d'un récipient en argile qui ne devient impur que lorsque l'impureté atteint l'intérieur de celui-ci. Par conséquent, si cet ustensile est placé de manière à ce que l'arrière de cet ustensile se trouve en direction de la pièce où se trouve ce cadavre, l'impureté ne traversera pas cet ustensile. Il pourra s'agir aussi d'un aliment qui n'est pas susceptible de devenir impur parce qu'il n'a pas été en contact avec l'un des sept liquides que nous avons énumérés précédemment. Mais si cet aliment a été une fois en contact avec un liquide, même s'il a séché par la suite, celui-ci est considéré comme étant susceptible de devenir impur. Il ne pourra par conséquent pas empêcher le passage de l'impureté. Maintenant, ce que Rav Tuvi Bar Kisna nous a enseigné au nom de Shmuel, c'est qu'il est vrai qu'il est possible non pas seulement de fermer entièrement cet orifice, mais même de diminuer sa taille en mettant un objet dans cette fenêtre. Cependant, pour cela, il faudra une autre condition, c'est que cet objet soit destiné à y rester. Il devra donc s'agir d'une fermeture définitive. Mais une fermeture provisoire ne sera pas suffisante pour diminuer la taille de cette fenêtre, pour empêcher le passage de l'impureté. Alors, par conséquent, Rav Tuvi Bar Kisna a enseigné que la présence d'une crêpe n'est pas suffisante pour diminuer la taille d'une fenêtre. Même s'il s'agit d'une crêpe qui a été fabriquée avec de la farine, qui n'a jamais eu de contact avec l'un des sept liquides que nous avons énumérés précédemment. Par exemple, s'il a été fait avec un jus d'orange. Donc finalement, cette crêpe n'est pas susceptible de devenir impure. Et d'autre part, le fait d'avoir mis cette crêpe dans cette fenêtre la rend dégoûtante, donc impropre à la consommation. Il y a donc tout lieu de penser que cette crêpe restera définitivement dans cette fenêtre. Quand même, sa présence ne diminuera pas la taille de la fenêtre pour empêcher le passage de l'impureté. Parce qu'il n'est pas évident qu'elle restera définitivement dans cette fenêtre, parce qu'elle peut être consommée, quoique difficilement, ou elle peut être donnée à manger à un animal. Alors, la Gemara dit là-dessus, Métivé, on a opposé à cet enseignement de Rav Tuvi Bar Kisna une Mishnah dans Ohalot, Perek Vav Mishnah Bet. La Mishnah dit, Kupa Melea Teven, une boîte ou un sac plein de paille, ou bien Vechavit Melea Grogrot, un fût plein de figues séchées, Hamunachim Bechalon, qui ont été posés dans une fenêtre pour la boucher. Il s'agit ici d'un cas, comme nous le verrons plus loin, où les ustensiles eux-mêmes ne peuvent pas empêcher l'impureté de passer. Roïn, on évaluera la consistance de cette paille ou de ces figues. Kol she'ilu yinatlu, dans toute situation où si on enlevait les ustensiles qui les contiennent, vi'echolin teven ou grogrot la mod bifne atzman, et cette paille ou ces figues sèches pouvaient quand même se maintenir dans cette fenêtre pour diminuer sa taille. Chotzetin, ils feront écran, c'est-à-dire ils empêcheront l'impureté de passer. Veimlav, et sinon, c'est-à-dire si cette paille ou ces figues ne pouvaient pas tenir tout seuls dans cette fenêtre sans ces récipients, en chotzetin, ils ne feront pas écran, ils n'empêcheront donc pas l'impureté de passer. Et cela parce que nous considérons que la taille de cette fenêtre a été diminuée uniquement par ces ustensiles qui maintiennent cette paille ou ces figues, qui eux-mêmes ne peuvent pas empêcher l'impureté de passer. En tout cas, nous voyons dans cette Mishnah que la présence de cette paille ou de ces figues, s'ils peuvent se maintenir tout seuls dans cette fenêtre, seront suffisants pour diminuer la taille de la fenêtre. Alors la question se pose, Vehateven Chazeli Bemto, pourtant cette paille est utilisable pour son animal. Finalement donc, il ne s'agit que d'une fermeture provisoire, et quand même nous disons que cette paille est suffisante pour diminuer la taille de la fenêtre. L'Agma répond, Bessaria, il s'agit d'une paille qui a pourri et qui ne peut donc pas être donnée à manger à un animal. L'Agma demande, Chazeletina, mais pourtant cette paille, même si elle a pourri, peut être utilisable pour faire du mortier. Finalement donc, il ne s'agit que d'une fermeture provisoire. L'Agma répond, Deitbe Kotse, il s'agit d'une paille dans laquelle il y a des épines. Étant donné que le mortier était foulé avec les pieds, il est donc impossible de l'utiliser pour faire du mortier. Alors l'Agmara demande, Chazé le Asaka, pourtant, même s'il s'agit d'une paille pourrie dans laquelle il y a des épines, elle peut être quand même utilisée pour un foyer. L'Agmara répond, Bemetuna, il s'agit d'une paille mouillée qui ne peut pas être brûlée. Alors l'Agmara demande, Chazé le Segadol, pourtant cette paille, même si elle est mouillée, peut être utilisée lorsqu'on fait un grand feu. L'Agma répond, Hesek Gadol Lo Shachiach, il n'est pas courant de faire un grand feu, par conséquent nous pouvons considérer que cette paille va rester définitivement dans cette fenêtre, ou tout au moins un temps assez long pour que nous puissions considérer que la taille de cette fenêtre a diminué entre temps. C'est pour cela donc que la présence de cette paille sera suffisante pour diminuer la taille de cette fenêtre, pour empêcher le passage de l'impureté. La Gemara demande, même si nous avons compris le cas de la paille, mais grogrot, les figues sèches dont parle la Mishnah, hachazoulet, elles peuvent être consommées par lui. Finalement donc, il ne s'agit pas d'une fermeture définitive. La Gemara répond, Amar Shmuel Bechei Trifou, il s'agit de figues qui ont pourri. Vechen Tane Rabba Bar Avuha Bechei Trifou. Rabba Bar Avuha a enseigné dans une breita qu'il s'agit ici de figues sèches qui ont pourri. Finalement donc, elles sont inutilisables. Nous pouvons donc estimer qu'elles resteront ici dans cette fenêtre définitivement. En même temps, la Gemara va expliquer pourquoi est-ce que la présence des ustensiles qui contiennent cette paille ou ces figues ne sera pas suffisante pour empêcher le passage de l'impureté. Parce que nous pouvons comprendre que ces ustensiles fermaient entièrement la fenêtre, et par conséquent, même s'ils n'étaient pas destinés à y rester définitivement, ils devraient pouvoir empêcher le passage de l'impureté. Alors nous pouvons comprendre que cette boîte ou ce sac qui contient la paille, qui peut être soit de bois, soit en tissu, est susceptible de devenir impur, elle ne pourra donc pas empêcher le passage de l'impureté. Maintenant, cette fenêtre n'étant pas fermée entièrement par la paille, à cause des parois de ce sac ou de cette boîte, devra impérativement être destinée à y rester définitivement, sinon celle-ci ne pouvait pas empêcher le passage de l'impureté, comme l'a enseigné Rav Tuvi Bar Kisna. Mais la question se pose, Hai Chavit, Hechidamia. Lorsque nous parlons d'une cruche qui contient des figues sèches, de quel cas s'agit-il? Parce qu'en général, la cruche est en argile. Nous avons expliqué plus haut que cette cruche ne peut devenir impure que lorsque l'impureté atteint l'intérieur de cet ustensile. Alors la question se pose, id puma le bar, si l'ouverture de cette cruche se trouve vers l'extérieur, c'est-à-dire donc le fond de cette cruche a été placé en direction de la pièce où se trouverait le cadavre.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi, quotidiennement en vidéo.